France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Chacun de ses romans est un événement en librairie. Il publie son 31e polar. Maxime Chattam sera mon invité à partir de 13h. Mais tout de suite, on ouvre le plateau critique avec une émission consacrée à l'actualité de la littérature étrangère. On causera des fleuves du ciel de l'écrivaine turque Elif Shafak, paru chez Flammarion, et du jardinier et la mort de l'écrivain bulgare Georgi Kosbodinov, paru chez Gallimard. Vous écoutez les midis de culture, je me disais bien aussi. Et pour débattre autour de la table aujourd'hui, Virginie Bloch-Lenné, productrice à France Culture, critique littéraire et romancière. Bonjour.
Bonjour Marie.
Marie Sorbier, rédactrice en chef de IO et productrice du Point Culture sur France Culture.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à toutes les deux.
Par une après-midi du début de l'été, à Ninive, le ciel s'enfle d'une menace de pluie prochaine. Un silence maussade, insolite, s'est installé sur la ville. Les oiseaux ne chantent plus depuis l'aube. Les papillons, les libellules sont parties se cacher. Les grenouilles ont abandonné leur aire de reproduction. Les oies se taisent, pressentant le danger. Même les moutons sont devenus muets et urinent fréquemment, terrassés par la peur. L'air a une odeur différente, un arôme piquant, salé. Tout au long de la journée, des ombres s'amassent à l'horizon, telle une armée ennemie qui a établi son campement et rassemble ses forces. Il semble parfaitement immobile et calme vu de loin, mais c'est une illusion d'optique, une ruse de l'œil. Les nuages roulent de plus en plus près, poussés par un vent puissant, résolu à inonder le monde et le refaçonner à neuf. Dans cette région où les étés sont longs et brûlants, les fleuves versatiles, impitoyables, où le souvenir du dernier déluge n'est pas encore lavé, l'eau est à la fois le héros de la vie et le messager de la mort.
Et la pluie va tomber sur Ninive. C'est le début du roman d'Elif Shafak que vous venez d'entendre. Dans les fleuves du ciel, tout commence par une goutte de pluie en Mésopotamie, en 630 avant notre ère. Une goutte d'eau qui va lier les personnages et leur histoire à travers les époques, les lieux et les cultures. Il y a Arthur, né sur les bords grouillants et miséreux de la Tamise en 1840. Il y a Narine, jeune fille yézidi en Irak. Et il y a Zalika, chercheuse installée à Londres en 2018 qui travaille sur la mémoire de l'eau. L'autrice Elif Shafak est née à Strasbourg, elle a grandi en Turquie avant de s'exiler à Londres. Elle écrit d'ailleurs désormais en anglais. Les fleuves du ciel est son 13e roman. On commence par un avis rapide, Marie Sorbier.
Alors moi j'ai pas vraiment l'habitude de lire ce type de roman, mais dans son genre je dois avouer que c'est très efficace. C'est-à-dire que tous les ingrédients sont savamment agencés pour coudre un récit qui est ample, c'est un mélange de roman d'apprentissage et de spiritualité. Disons que c'est un livre qu'on lit vraiment pour l'histoire plus que pour la forme. Il n'y a pas une recherche formelle d'écriture. Par contre, c'est un vrai roman qui se dévore. C'est un page-turner, on a envie d'aller au bout. Et c'est quand même très généreux et agréable à lire.
Virginie Bloch-Lenné.
J'ai été enthousiasmée et surprise d'être enthousiasmée par ce livre. C'est du très bon roman populaire, érudit mais accessible. Le style n'est pas beau, mais la forme est bien faite. Puisqu'il y a, c'est un roman à tiroir. Il y a trois narrateurs, il y a trois histoires. Il n'y a pas trois narrateurs, mais trois histoires. Tout ça est très bien organisé, arrangé. J'ai pensé à Donna Tartt, l'autrice du Maître des Illusions. C'est très bien. Il y a un des héros qui vit, qui est un petit garçon du 19e siècle. Elle fait pas du sous Dickens. C'est très bien. C'est pas caricatural, c'est très bien.
Alors Marie Sorbier, vous disiez dans son genre, c'est très bien fait. Alors c'est quoi son genre, par
Alors c'est un genre populaire en effet. Vous l'avez dit Virginie, mais c'est ces romans d'aventure qui croisent trois histoires. Alors au début du livre, on voit pas le lien entre les personnages. Vous l'avez dit, c'est dans des lieux géographiques très différents. On est à Londres pour deux d'entre eux, mais à deux époques différentes, et en Mésopotamie pour la troisième. Ils n'ont rien à voir. Ils ont des âges différents. Ils viennent de familles différentes, etc. Évidemment, le livre va faire en sorte que ces trois destins se croisent parce qu'ils ont plein de choses en commun et leur histoire va se croiser. Donc, cette histoire-là, la façon dont elle a de la tisser, c'est extrêmement bien fait. Et pourquoi c'est bien fait? Parce qu'en fait, elle a pris un principe narratif qui est assez simple est assez classique, c'est-à-dire que tout est relié par l'eau. Vous avez parlé de cette fameuse goutte d'eau qui revient au fur et à mesure du roman. Le roi Assurbanipal en Mésopotamie, là on est vraiment très très loin, qui ouvre ce roman, il y a une petite goutte d'eau qui vient sur sa tête, et en fait on comprend que c'est la même goutte d'eau qui va relier Arthur en 1840 à la Tamise, et puis les deux, la jeune fille Yézidi et puis la chercheuse à Londres. Tout le principe souterrain du roman, c'est de dire que l'eau a une mémoire. Donc tout se passe au bord de fleuve, et en fait les gouttes d'eau, vous savez, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cette même goutte d'eau, elle va toucher en fait tous ces personnages-là. Ça, c'est sa trame narrative, qui au début peut paraître un peu artificielle. Je me suis dit, comment elle va réussir à nous faire croire que cette goutte d'eau traverse les âges et les époques? Et pourtant, et là c'est quand même son génie, et c'est pour ça que c'est efficace comme type de livre, par la narration, par son talent quand même de portraitiste, parce que ces trois personnages, ils sont extrêmement bien croqués, on les voit très vite, on s'y attache, ils sont très différents, et ce talent-là d'écriture fait que non seulement on a envie de savoir ce qui se passe et on comprend au bout d'un moment que ces trois destins vont se croiser, on veut voir comment elle va faire, et que cette histoire de goutte d'eau en fait qui le relie, c'est pas si bête en fait, ça marche, il y a quelque chose qui fonctionne dans cette idée très simple que l'eau a une mémoire. Moi en tout cas je me suis laissée prendre, et notamment parce que je trouve que c'est un roman qui est richement documenté, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Moi je connais pas grand chose à la civilisation mésopotamienne et j'ai appris plein de choses. C'est richement documenté mais c'est très accessible, elle fait en sorte qu'on puisse tous comprendre et comprendre avec sensibilité en fait cette culture, qu'on la ressente, ouais. Exactement. C'est très agréable à lire, on a l'impression d'apprendre plein de choses.
Virginie Bloch-Lenné, vous avez dit le mot érudit. C'est le cas en fait, effectivement, oui. Elle a beaucoup documenté, on parle aussi des Yézidis en Irak, enfin voilà.
Oui, parce que les trois personnages convergent vers la Mésopotamie. Les trois personnages vont déclencher une quête qui les mènera vers la Mésopotamie. Il y a un des personnages, c'est le je trouve le plus réussi, qui s'appelle Arthur, qui est un petit garçon qui naît dans une famille misérable avec un père atroce, une mère dépressive. Il naît en 1840. Il va devenir un savant. Il va déchiffrer l'écriture cunéiforme. Et ça, c'est très bien expliqué. Les tablettes en écriture cunéiforme sont... Enfin, oui, c'est documenté. On apprend plein de choses. Il va au British Museum. Donc, on est content de le voir rentrer. Il va partir en Mésopotamie. Avant, il va arriver à Paris. Tout se passe au 19e siècle. Fin du 19e, il y a quelque chose de formidable. Il rencontre Charles Dickens. Parce qu'avant de devenir un savant, il travaille dans une imprimerie. Et les imprimeurs, et elle a pris les vrais imprimeurs de Dickens, sont imprimeurs et éditeurs de Dickens. Donc tout ça, ça y est, mais bien, elle le fait pas à gros traits. Il y a les Yézidis, parce qu'il y a une petite fille qui a un malheur, elle va bientôt devenir sourde. Elle fait partie donc de ce peuple et ça se passe en 2014, au moment où il y a un génocide des Yézidis. Elle arrive en Irak et ça, voilà, c'est tragique. Et la troisième femme qui vit en 2018, elle aussi est une savante, elle est hydrologue et elle va chercher à se renseigner aussi sur les tablettes et l'écriture cunéiforme.
Marie-Sorville.
Oui, il y a aussi quelque chose qui m'a plu dans ce roman, c'est que justement pour lui donner une dimension, j'allais presque dire cosmique, c'est un grand mot, mais c'est-à-dire qu'on ne reste pas du point de vue des humains. L'autrice, elle inclut les non-humains en fait dans ce livre-là. Je parlais de la goutte d'eau, mais le fleuve aussi, tous ces éléments-là ont une vraie existence et en fait c'est aussi des vrais personnages du livre. Et ça rejoint une dimension qu'elle a voulu exploiter, je trouve, de façon assez subtile, c'est que c'est quand même un livre qui parle beaucoup de spiritualité, de verticalité en tout cas. Les Yézidis sont un peuple religieux, les Mésopotamiens parlent beaucoup de leur dieu, et donc cette recherche de la spiritualité, que ce soit de la spiritualité oubliée, ancienne, ou dans le cas de cette petite fille, en 2014, de la spiritualité quotidienne, et qui fait que c'est cette spiritualité-là qui font que le monde entier les appelle les adorateurs du diable, les Yézidis, et c'est pour ça, on parle même de génocide à leur encontre, on a voulu exterminer ce peuple, donc elle en parle très bien. On a voulu les exterminer parce que leur croyance était considérée comme hérétique. Donc ce lien à la spiritualité, qu'il soit culturel ou très concret, je le trouve assez beau. Et justement, en fait, ça amplifie le roman. Ça évite que ce soit juste un roman d'aventure. Je vais chercher la dernière strophe du poème de Gilgamesh, puisque c'est pour ça que le fameux Arthur part en Mésopotamie. Mais ça lui donne une ampleur. Et ça, j'ai trouvé ça très juste, parce que d'un coup, on décollait d'un roman d'aventure qui aurait pu être un peu horizontal vers quelque chose de plus vertical. Je trouve qu'elle fait ça subtilement, voilà.
Oui, et je Virginie. Trouve aussi avec l'eau, elle travaille subtilement avec l'eau et avec ce symbole qu'est l'eau. L'eau, c'est un cycle, ça représente un cycle. L'eau circule entre ces trois personnages, des drames. Ces trois personnages connaissent des drames. Il n'y a pas une morale trop lourde, mais elle est assez pessimiste, c'est-à-dire que il y a un génocide en 2014, il y a un manque d'eau et un gâchis de l'eau en 2018, il y a eu aussi des meurtres à la fin du 19e siècle lorsque Arthur arrive à Ninive, et elle montre que ça va continuer. C'est un cycle, rien ne change. Et avec cette petite goutte d'eau, elle montre tout ça sans... Moi, j'ai pas trop senti... Enfin, il y a de la spiritualité, mais surtout les résonances, je trouve que les résonances sont bien travaillées avec l'époque contemporaine et avec l'histoire du monde.
Marie Sorbier.
On disait au début que c'était un roman à histoire plus qu'à forme. Je veux pas dire par là que c'est mal écrit, c'est écrit de façon efficace. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y avait pas de recherche formelle comme on peut parfois en lire dans la littérature contemporaine. Mais encore une fois, c'est pas son propos, c'est pas ce qu'elle cherche. Donc il faut pas lui donner une intention qu'elle n'a pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est embarquer le lecteur dans une grande histoire. Et ça, pour le coup, elle y arrive. Ce qui est beau quand même quand elle parle de littérature, c'est que la littérature, on la retrouve pas dans la structure même de ses phrases. Par contre, on la retrouve en creux dans le roman. Par exemple, les personnages secondaires racontent des histoires. Et notamment la grand-mère de cette petite fille, puisque cette petite fille est élevée par sa grand-mère, qui est une, comment on dit, vous savez, quelqu'un qui cherche l'eau, une sourcière, je sais pas comment on le
sourcière,
genre,
on voilà, dire,
ouais, féminin. Bon, une dame qui trouve l'eau. Et en fait, cette dame, elle est aussi la récipiendaire de toutes les histoires de son peuple, donc des Yézidis. Et donc, elle raconte beaucoup d'histoires à sa petite fille avant que cette petite fille ne devienne sourde. Donc elle est là comme un réceptacle, et donc on a toutes ces histoires-là. Et ce que j'ai trouvé beau finalement dans son projet, c'est que elle fait pas de la littérature en tant que telle dans ses phrases, par contre elle magnifie l'idée de raconter des histoires, comme quoi en fait la mémoire d'un peuple, elle se trouve aussi dans les histoires qu'on transmet aux générations d'après, et c'est un livre aussi sur la transmission.
Et sur l'imagination, parce que c'est vraiment une, c'est très compliqué ce qu'elle fait. Cette structure est compliquée. Donc c'est un éloge de la fiction et du pouvoir de la fiction et de l'imagination.
Et j'imagine que ça passe par beaucoup de descriptions quand même, si nonobstant une écriture simple, on va dire.
Des villes, c'est très beau. Par exemple, vous avez dit qu'elle était turque, l'autrice. Il y a un passage assez beau sur Constantinople, puisque le fameux Arthur part en bateau vers Ninive. On est dans les années 1860, je crois, au moment de l'expédition, ou 1870, et il s'arrête à Constantinople parce qu'il doit avoir un laissez-passer, et là il reste plusieurs semaines coincé dans cette ville avant de reprendre son bateau. Et la description de Constantinople est terrible, parce que on a l'habitude de lire des descriptions très flamboyantes de cette ville dorée avec ses coupoles et puis tout ce qui se passe à l'intérieur. Elle en fait une description beaucoup plus dure, beaucoup plus noire. D'ailleurs, tout finit dans un grand incendie, la ville brûle, et là je trouve qu'on sent en fait les racines turques de l'autrice. C'était assez beau qu'elle les pose à cet endroit-là. Mais pour revenir sur les descriptions, oui, il y a des descriptions de villes, de fleuves, bien sûr, qui sont assez enlevées aussi, assez belles.
On voit l'endroit. Et il y a aussi une dénonciation du fanatisme à plusieurs, voilà, à toutes les époques, que ce soit Daesh, que ce soit au 19e ou en 2018, elle dit à plusieurs reprises qu'il faut se sortir du religieux, du poids, du joug du religieux.
Les fleuves du ciel d'Elif Shafak, traduit de l'anglais par Dominique Gouin-Blanquet, apparu chez Flammarion.
Mon père réussissait à transformer chaque endroit en jardin, chaque maison en foyer. C'est un talent particulier. Chaque location dans laquelle nous emménagions un jour, or nous déménageons souvent, allez savoir pourquoi, devenait en quelque sorte notre maison de toujours. C'est la raison pour laquelle, à présent, outre tout le reste, je me sens sans foyer. Je n'oublierai pas la manière qu'il avait de transporter même le jardin. Il retirait délicatement les bulbes des jacinthes, des jonquilles et des linaires, des pivoines et des tulipes, il avait ses préférés, des tulipes bleu foncé, hollandaises, dont il ne s'est jamais séparé et qu'il transplantait dans le nouveau jardin. Les fleurs ne sont-elles pas les périscopes secrets des morts qui gisent sous elles et observent le monde à travers leurs tiges? Oui, mon père était jardinier. À présent, c'est un jardin.
Georgi Gospodinov, l'auteur de ces lignes, est l'auteur bulgare le plus traduit dans le monde. En 2023, il connaît une consécration mondiale avec l'International Booker Prize pour son roman Le Pays du Passé. Et c'est pendant qu'il voyage pour parler de son livre à l'étranger que son père meurt. Mais il reste son jardin, vous l'avez entendu, et Gospodinov va y glaner des traces de cet homme né en URSS, un père bon, réservé et conteur d'histoire, un père immense qui, sur la fin de sa vie, devient fragile. On commence avec un avis rapide, Virginie Bloch-Lenné.
C'est un très beau livre sur un père, sur la Bulgarie, sur deux générations de Bulgares, celle du père et celle du fils, qui est né en 1968. L'auteur mêle le personnel et l'historique. C'est un document sur la façon dont on a fait famille dans la Bulgarie communiste. C'est un chant sans pathos. Et l'auteur montre aussi très bien comment sa douleur, petit à petit, mais lentement, va se transformer en tristesse, comment sa douleur profonde, comment il va petit à petit vivre avec.
Marie Sorbier.
Ah, c'est un très beau roman, très intime sur le deuil. Et pourtant, c'est ce qui m'a le plus plu, l'auteur parvient, grâce à une phrase dépouillée, mais une phrase magnifique, à rendre justement cette expérience de chagrin lumineuse. C'est très étrange, j'ai eu l'impression, alors qu'il ne parle que de deuil et de tristesse, j'ai eu l'impression en refermant ce livre qu'en fait, c'était quand même plus un chant d'amour qu'un chant de deuil. Je trouve ça vraiment très beau.
On a entendu cette phrase qui est absolument magnifique, les fleurs sont les périscopes des morts. Virginie Bloch-Lenné, je pense que c'est assez représentatif du ton de ce roman.
Oui, alors le père était jardinier et le roman, le livre, ce récit n'est pas linéaire, c'est comme des visites renouvelées dans un jardin, mais par à chaque fois des chemins différents. Donc à chaque fois qu'il y va, il attrape un souvenir différent. Mmh. Il se souvient de quelque chose de nouveau de son père, un père qui n'était pas tendre, mais qui était un bon père, qui était un père aimant. Et les souvenirs, les anecdotes reviennent. Il parle assez peu de lui. C'est un roman personnel, mais où l'auteur ne se regarde pas le nombril. Et il a aussi, alors c'est un lieu commun, l'humour peut-être de l'Est, mais il y a de l'ironie, parce que il y a de l'ironie sur le régime communiste, il y a de l'ironie sur la façon dont ils étaient censés vivre et dont ils ne vivaient pas. Par exemple, le père échappait chaque année à la commémoration du coup d'État qui a mis fin à la monarchie en prétextant chaque année à la même date un mal de gencive terrible qui faisait qu'il obtenait un mot du dentiste. Parce qu'il fallait un mot. Et voilà. Et au bout de quelques années, le dentiste lui dit, mais enfin, comment tu...
Ça a commencé à se voir.
Oui, oui, oui.
Non, mais il est drôle dès le début quand il explique aussi, attention lecteur, l'homme dont je parle, il est déjà mort, en fait.
Alors ça, c'est ce que j'ai trouvé magnifique dans la construction de ce livre, qui, moi, m'a beaucoup plu. C'est qu'en fait, page 2, hein, on nous dit, le héros principal va mourir. Donc, on comprend très bien que l'enjeu n'est pas le suspense, c'est pas du tout ça. Par contre, ce qu'il fait littérairement, et que j'ai trouvé vraiment remarquable, c'est qu'il va retarder la mort du père. C'est-à-dire, on sait qu'il va mourir. Or, grâce à la littérature et grâce aux mots et grâce aux histoires qu'il raconte, chaque chapitre, en fait, on s'approche de la mort, mais il meurt toujours pas. On s'approche, on va dans les derniers jours, et puis finalement, il dit, attendez, avant de vous raconter ça, faut que je vous raconte une autre histoire, une anecdote. Et c'est très émouvant de voir un fils qui, en fait, repousse la mort de son père qui l'a fait souffrir, mais il la repousse par la littérature, parce qu'en fait, il n'a que ça. Mmh. C'est les mots qui vont repousser. Il a cette très belle phrase à un moment donné où il dit, tant que personne n'a dit il est mort, il est pas mort. Donc, c'est le mot qui fait la chose. Et ça, je trouve que littérairement, c'est très puissant. Mais il y va pas, c'est pas un livre musclé, il y va pas avec les grands chevaux, c'est pas un démonstrateur, c'est pas démonstratif comme livre. La phrase est extrêmement simple, je crois qu'on l'a bien entendu dans l'extrait. Et pourtant, il y a un pouvoir d'émotion. Enfin, moi, ça m'a pris à la gorge plusieurs fois. Et encore une fois, il appuie pas sur les ressorts classiques. Hein. Il est très délicat. Il est presque en creux par moment. Mais cet exercice de piété filiale qu'il fait, qui rend à son père, qui en effet lui a pas donné visiblement beaucoup de marques d'affection, de tendresse. Je crois que c'était une époque où on se prenait pas dans les bras. Enfin, voilà. Et pourtant, il a aimé son père. Son père a été bon avec lui. Et il y a une phrase que je trouve merveilleuse, une anecdote qui raconte pour parler de la fierté de ses parents, c'est que donc lui devient un grand écrivain, connu, très connu, et en fait ses parents un jour l'appellent et lui disent c'est incroyable, ils font des mots croisés, et en fait dans un des mots croisés, la réponse était un titre du roman de leur fils. Et pour eux, c'est le top de la gloire possible, ils sont hyper fiers de voir que leur fils est dans les mots croisés. Et c'est par des petites pointes comme ça qu'ils racontent leurs liens, et moi ça me donne plutôt des frissons, je trouve ça très beau la façon dont ils parlent de son père.
Alors Virginie Bloch-Lenné, vous disiez que ça, c'est aussi le roman de la Bulgarie communiste.
Oui.
Et de ce qui a changé, et de la façon dont on fait famille différemment. C'est-à-dire que quand lui-même a des enfants, ses parents ne se comportent plus du tout de la même façon.
Oui, 17 ans avant la mort de son père, il a eu une petite fille, Gospodinov. Il parle vraiment très peu de lui, de son couple. Et il a vu ses parents embrasser la main de ce nourrisson. Et il n'en est pas revenu. Et il dit, mais vraiment jamais nos parents, ils vivaient. Ils étaient dans la survie. Ils étaient dans une tension de tous les instants quotidiennes. Et jamais on a été gâtés et ça ne leur serait pas venu à l'esprit de nous baiser la main. Mmh. Il a un frère. Et il est surpris de la tendresse qu'il s'autorise. Lui, maintenant, lorsque le père est mourant, il va s'allonger à côté de son père. Il va respirer le souffle de son père mourant. Et tout ça, c'est une découverte alors qu'il a 50 ans. C'est une découverte pour lui.
Mmh. Marie Sorbier.
Oui, moi, ce qui m'a aussi surpris, finalement, dans ce roman, je le disais, il n'y a pas de suspense puisqu'on sait que le père meurt. Il retarde comme ça, il fait plein de débuts et puis plein de fins. Le père meurt peut-être aux trois quarts du livre et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'il va raconter en fait? Et la surprise vient de la douceur de l'après. Alors évidemment, le chagrin est immense et pourtant dans l'écriture, il y a une tendresse et une douceur qui s'installe, qui fait passer justement, c'est ce que vous disiez Virginie, grâce au jardin, parce que ce jardin que son père a entretenu pendant des années, il le regarde, il trouve un petit carnet dans lequel le père a tout noté en disant attention à telle semaine, il faut faire tel truc sur telle fleur pour qu'elle puisse pousser au bon endroit. Enfin, tout un recueil de jardiniers. Et il reprend un peu ça, il regarde les pers-neiges, à quel moment ils vont sortir. Et c'est en regardant ce jardin et donc les racines qui poussent, qu'il repense en fait à tout ce que son père a fait depuis sa naissance. Alors évidemment, l'image, elle peut paraître assez classique de parler des racines quand on parle du père. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, dans ce livre-là et de la façon dans laquelle il l'exprime, j'ai trouvé ça très beau et ça m'a ému en fait, la douceur et la tendresse avec laquelle il embrasse son chagrin.
Mmh. Alors on parle de chagrin, Virginie Bloch-Lenné, vous parliez de douleur qui se transforme en tristesse. Comment se produit ce glissement dans ce roman ?
Eh bien, il y a des moments où il n'arrive pas à en parler avec d'autres et il dit le manque est trop criant. Et petit à petit, c'est un mélancolique Gospodinov. Son livre précédent, pour lequel il a eu l'International Booker Prize, Le Pays du Passé, est un livre à la fois drôle et mélancolique sur l'Europe, un livre cruel, et il a écrit sur la mélancolie. Il est drôle et pessimiste. Et donc, la douleur est très forte au début, mais il la garde pour lui, et petit à petit, il s'habitue à l'absence du père. Et en s'habituant, il ressort comme ça des anecdotes qui font qu'il va arriver à vivre avec en compagnie de ce manque, de ce chagrin. Il va se souvenir qu'il a appris assez tard que son père, tous les soirs, en s'endormant, se rappelait les personnes mortes dans le village depuis une cinquantaine d'années. C'était son rituel d'endormissement. Donc il pose comme ça sur le livre tout ce qui compose son père et petit à petit, il arrive à faire avec. Et ce que je trouve très beau aussi, c'est qu'on se dit que ce père qui n'a pas été tendre, il a réussi à construire un fils très solide. Mmh. Donc il a dû être un bon père parce que j'ai pensé à Philippe Roth qui dans Patrimoine est un très bon fils. Mais c'est pas donné à tous les parents de construire des adultes solides. Et donc ce père, malgré un manque peut-être de tendresse physique, il a construit un fils responsable. Enfin, les deux fils ont des rapports apaisés avec leurs parents et très ils sont là dès qu'il le faut.
Ouais, mais c'est vrai que les pères on a peu d'odes comme ça, de comment vous dites, de
oui, d'exercice de piété
filiale
patrimoine,
envers les pères.
Patrimoine, oui. De Philippe Roth.
Et surtout, parfois quand on les a, il y a quelque chose de presque un peu affecté, qui va souvent avec le deuil, avec le chagrin. Et là, c'est vraiment l'inverse, il n'y a rien d'affecté, c'est juste doux. C'est évidemment triste, mais il y a quelque chose de lumineux dans ce livre-là. Je trouve qu'il réussit quelque chose qu'on ne lit pas beaucoup ailleurs. Et peut-être le lien avec le livre d'avant de notre programme aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une attention aux histoires que l'on raconte. Vous disait Virginie quand il parle d'anecdotes, mais en fait son père c'était un peu un réservoir à histoires et en public c'était visiblement quelqu'un d'assez drôle qui aimait raconter toujours un peu les mêmes histoires, vous savez, dans les repas de famille où on va vous rappeler quand, bon. Et en fait le plaisir du fils qui une fois le père disparu se dit mais en fait ces histoires là maintenant elles sont à moi et il faut que je les re-raconte, et donc il le dit d'ailleurs, il s'adresse au lecteur de temps en temps, il y a des formules très directes en disant attendez avant que je passe au chapitre d'après, il faut que je vous raconte cette histoire que racontait mon père, et donc il re-raconte alors voilà vraiment les histoires de la famille, les fermes forcément. Bon, c'est toujours des anecdotes, soit drôles, soit un peu pathétiques, où on se moque de quelqu'un, de la famille, etc. Mais c'est assez beau de se dire qu'en fait, ce patrimoine d'histoire que le fils se restitue, fils lui-même écrivain, donc qu'est-ce qu'il a fait le fils, lui, bah, il a passé son temps à écrire des histoires. Je trouve que la filiation est assez belle entre ce père qu'on imagine pas forcément être quelqu'un d'intellectuel, c'est quelqu'un qui faisait un jardin perdu au fin fond de la Bulgarie.
Et il a fait des études néanmoins.
Il a fait des études,
oui,
c'est vrai.
Oui, les deux parents ont fait des études.
Et d'un coup, ce fils qui devient quand même mondialement connu, il est cité régulièrement pour recevoir le prix Nobel, hein, Gospodinov. Donc bon, on se trouve dans, quand même dans les hautes sphères de la littérature. Bah, en fait, c'est assez beau parce que ce que dit le livre en creux, c'est que finalement, ils font un peu la même chose. Ils racontent des histoires, quoi. Ce père qui faisait son jardin et ce fils qui est un grand écrivain. Ça aussi, c'est une belle horizontalité entre les deux.
Et puis c'est l'hommage d'un fils à son père, mais ce qu'il aime chez son père, ou en tout cas ce à quoi il rend hommage, c'est une forme de délicatesse. Quelque part, on n'est pas face à un homme puissant.
Ah oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai parlé de patrimoine, mais c'est pareil, Philippe Roth, il aimait il voyait la modestie de son père. Et ça, c'est très beau. Il mesurait 2 mètres, le père de Gospodinov, mais il prenait soin de chaque fleur dans son jardin. Et ce mélange de colosse et de douceur, moi je n'ai jamais vu Gospodinov en vrai, mais j'ai vu des photos, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi physiquement. C'est vraiment, Marie parlait de la douceur de l'écriture, c'est très saillant ça, elle est très sensible, cette douceur, et ce mélange de solidité, de fiabilité et de douceur, c'est très beau.
Marie sort bien.
Non, je ne sais pas si j'ai autre chose à dire.
On est arrivé au bout.
Virginie. Oui, vas-y, Virginie.
Vous parliez du tableau de la Bulgarie et de la transmission. Gospodinov raconte que quand son père meurt, il voyage pour faire la promotion de son livre qui a eu l'International Booker Prize. Et il dit, mon père n'avait pas le droit de voyager quand on était enfant. Et quand il l'a eu, il n'avait pas d'argent. Et lui, et le père est un peu inquiet. Ah, tu es où? Il est partout en Europe. Et il fait ça à la place de ses parents.
Et c'est un père qui avait retenu les poèmes de son fils.
Oui,
c'est ça.
Il avait retenu tous les poèmes que son fils enfant avait écrits, mais sans le lui dire. C'était un père.
Et ben voilà, donc ça donne très très envie, et moi je vais me jeter sur ce livre, Le jardinier et la mort de Georgi Gospodinov, paru chez Gallimard et traduit du bulgare par Marie Vrina Nikolov. Virginie Bloch-Lenné, Marie Sorbier, merci beaucoup.
Merci beaucoup
d'être venue. Marie, on se retrouve tout à l'heure, vous partez pas trop loin.
Non, je reste par là.
Vous revenez pour le Point Culture, et merci aussi à Jules Barbier et à Marceau Vassy pour les très belles lectures de ces deux extraits de romans. Évidemment, toutes les références, les infos, vous les retrouvez sur la page des Midis de Culture. On se retrouve dans un instant, restez avec nous.